Je vais essayer d'hausser le ton de la voix car nous manquons de micro exceptionnellement. J'ai la voix qui porte un peu. Pierre me dit que pas trop. Mais nous allons nous débrouiller. Je vous remercie d'être si nombreux par cet après-midi très ensoleillé avec ce long pont qui nous faisait craindre que peut-être il y aurait quelques absents. Mais non, vous êtes tous là, c'est formidable. On va passer tout de suite aux annonces.
Vous avez le cocher poétique. Le 30 mai, la brasserie du Pont Neuf à 17h. Après la réunion, des informations peuvent être données si vous le souhaitez. Je vous remercie.
Bah, demain à 17h.
J'allais le dire.
Tu préfères le dire?
Ah non, vas-y.
Donc, demain à 17h ou le 18 juin à 21h, le bonheur des mots au théâtre de poche du Montparnasse, un voyage insolite en poésie de la Renaissance à nos jours par Hervé Van Bermelen. Vous pouvez réserver. Je pense qu'il y a encore des places aussi, peut-être pour prendre les places.
Il faut voir, il faut voir. Tu cites peut-être quelques auteurs.
Et surtout, voilà, je vais vous dire quand même la liste des auteurs. Alphonse Allais, Guillaume Apollinaire, Charles Baudelaire, Joachim du Bellay, André Breton, René Char, André Chédid, Daniel Corr, très bien entouré, Charles Cros, Marceline Desbordes-Valmore, Victor Hugo, Louise Labbé, Jean de La Fontaine, Stéphane Mallarmé, Clément Marot, Henri Michaud, Anna de Noailles, Jacques Prévert, Pierre Reverdy, Arthur Rimbaud, Pierre de Ronsard, Émile Verhaeren, Paul Verlaine et Alfred de Vigny.
C'est très convenable.
Voilà, Daniel est en bonne compagnie. Et ce n'est pas une lecture, c'est un homme de théâtre qui lit les poèmes. La prochaine séance aura lieu le 8 juin et c'est Yannick Reich qui viendra nous parler de Colette. Pour aujourd'hui, nous allons tenter une aventure un peu exceptionnelle car il est d'usage ici de présenter qu'une seule personne et en voilà deux. Deux qui en outre ont toujours manifesté, Pierre me contredira peut-être, une certaine animosité contre la poésie. Donc c'était déjà deux éléments qui faisaient que peut-être ils n'étaient pas tellement bienvenus ici. Mais grâce à Pierre Dufèvre, nous allons nous assurer du contraire. Je présente brièvement Pierre, qui est professeur émérite de l'Université Paris-Nanterre. Il a soutenu sa thèse avec le professeur Louis Forestier, dont on se souvient qu'il a aussi dirigé la thèse de Pierre Segers et d'Anne-Simone Dufièvre. Et la mienne aussi.
Et de Bernard, surtout.
Ah, pas surtout. Il a dirigé pendant 12 ans une unité au CNRS spécialisée dans l'édition des correspondances. Il a été président de l'ADIREL, Association pour la diffusion de la recherche littéraire française, et président, bien sûr, de la Société des Frères Goncourt. Ses travaux portent essentiellement sur la littérature française de 1840 à 1920, c'est un large empan. Il a publié avec Anne-Simone Dufièvre une sélection en 4 volumes des romans de Balzac chez Omnibus. Il a dirigé et publié de nombreux colloques universitaires et l'édition des œuvres complètes des frères Goncourt chez Champion. Et notamment, en 2020, chez Fayard, une biographie des frères Goncourt qui a obtenu le prix de la biographie de l'Académie française et le prix Chateaubriand. J'ajoute qu'il est membre, avec son épouse Daniel Corr et moi-même, du comité scientifique de l'Association des Amis de Daniel Boulanger, qui vient hélas de perdre sa fondatrice, qui était venue ici même nous parler de Daniel Boulanger. Je veux parler d'Adama Boulanger, qui est encore dans nos esprits et dans nos cœurs. Je laisse la parole à Pierre.
Alors, merci beaucoup, Bernard, de cette présentation. Alors, j'ai une voix qui porte peu, hein. Je suis un peu inquiet de l'absence de micro, mais je vais essayer de faire tout mon possible pour me faire entendre. Je ne peux pas parler plus fort. Comment ? Ah, je me lève ? Bon, alors, je ne sais pas si c'est mieux debout. On essaiera coucher tout à l'heure, peut-être. Enfin, des tas de possibilités. Alors, c'est, comme le rappelait Bernard, peut-être un petit peu paradoxal, effectivement, d'évoquer la poésie à propos des frères Goncourt. On les connaît, ils sont connus pour leur méchanceté, ils sont connus pour leur misogynie, ils sont connus pour leur antisémitisme, ils sont surtout connus pour avoir créé la fameuse Académie Goncourt, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, mais ils ont quand même aussi une œuvre littéraire relativement importante. Ils ont écrit un journal qui couvre un demi-siècle de vie littéraire, 1851-1896, et qui est une mine de méchanceté, mais aussi une mine de renseignements, une sténographie extrêmement intéressante à l'époque où le magnétophone n'existait pas, de conversations. Les conversations des écrivains nous sont connues hein, grâce à ce journal des Goncourt. Le soir, quand ils rentraient, ils notaient hein, les propos qu'ils avaient entendus. Et donc, on a cette masse littéraire de la parole orale conservée grâce à ces diaries. Alors ça, c'est un premier point très important, hein, le journal. Un deuxième point de leur œuvre qui mérite aussi d'être retenu, c'est leur création romanesque. Ils ont publié à quatre mains. Jules de Goncourt est mort en 1870 et Edmond a vécu jusqu'en 1896. Ils ont publié toute une série de romans dont certains ont été considérés comme fondateurs du naturalisme. Un roman de la domestique, hein, Germinier Lacerteux, qui est paru en 1865 et qui est véritablement une œuvre qui a été ensuite reprise par Zola, qui a souvent été accusé d'ailleurs par eux de les avoir plagiés. Ils sont créateurs aussi du roman décadent, du roman fin de siècle, avec plusieurs œuvres, Madame Gervaiset, et puis La Faustin, qui a connu un grand succès auprès des écrivains fin de siècle. Donc vous voyez, bon, il y a une œuvre littéraire, un journal, des romans et toute une œuvre historique aussi. On oublie trop que les Goncourt ont été des historiens et ils ont commencé par cela. Ils ont été des historiens et créateurs d'une nouvelle forme d'histoire, créateurs dans une certaine mesure de ce qu'on a appelé l'histoire culturelle. Ils ont abandonné totalement l'histoire des batailles, l'histoire des grands hommes, pour se faire les historiens de la vie quotidienne, l'histoire des mœurs, l'histoire des modes de vie. Alors je citerai quelques-uns de leurs ouvrages historiques. C'est pas un micro, non ?
Ça ressemble.
Ça ressemble, mais ce n'est pas... Bon, donc je reviens au Goncourt historien, historien de Marie-Antoinette, hein, ça a été l'un de leurs grands ouvrages. Histoire de la Révolution française, de la société française sous la Révolution. Histoire également du XVIIIe siècle et historien de l'art. Ils ont publié un très bel ouvrage qui s'appelle « L'histoire de l'art au XVIIIe siècle » dans lequel ils présentent une série de monographies. Ils ont été un peu les redécouvreurs de Watteau et ils font revivre également Fragonard et d'autres artistes importants du XVIIIe siècle. Alors vous allez me dire, la poésie dans tout ça. Alors la poésie dans tout ça, elle semble effectivement bien absente et tout à l'heure je reviendrai à propos du journal sur quelques paroles un peu méchantes à l'égard des poètes, mais les Goncourt, malgré tout, ont été l'objet d'admiration hein, de leurs contemporains et je cite l'un de leurs amis, sur lequel je reviendrai aussi tout à l'heure, Théodore de Banville. Chose merveilleuse, écrit Théodore de Banville. Le mieux est parfois l'ennemi du bien. Chose merveilleuse qu'un micro... Non, c'est pas ce que dit Banville. Chose merveilleuse. Les travaux écrasants que messieurs Edmond et Jules de Goncourt n'ont pas craint d'affronter n'ont pas tué en eux ce don d'incarner, de faire vivre, ce don de créer des images vives, ce don de la prose poétique et ces dons de poètes. Pour Banville, les Goncourt sont des poètes. Et Victor Hugo leur écrivait à propos de leur roman de l'artiste Manette Salomon, paru en 1867. Alors, Hugo était toujours un peu bénisseur hein, dans ses lettres, mais malgré tout. « Vous êtes des écrivains charmants, faisant à deux un écrivain puissant. Vous êtes des artistes, des philosophes et surtout des poètes. » Alors, les Goncourt sont ainsi adoubés, si vous voulez, par deux grands poètes, hein, Théodore de Banville et Victor Hugo, et on peut donc s'interroger, à juste titre, me semble-t-il, enfin les besoins de cette conférence m'ont amené aussi à m'interroger sur cette question, on peut s'interroger donc sur la place de la poésie dans leur œuvre. Alors je vais envisager quelques points successivement. Alors tout d'abord, j'essaierai d'évoquer avec vous leurs débuts littéraires, et les débuts des Goncourt ont d'abord été des débuts comme poètes. Hein. Les premières œuvres des Goncourt ont été des poèmes. Dans un deuxième temps, j'essaierai de montrer comment, dans leur œuvre en prose, dans leur journal, mais aussi à travers toute une série de poèmes en prose, ils ont été également poètes. Et puis, dans un second temps, j'essaierai de faire revivre quelques poètes leurs contemporains à travers leur journal. Et je citerai et j'évoquerai aussi quelques-unes de ces figures importantes qu'ils ont côtoyées. J'évoquais Banville, mais ils sont nombreux à les avoir rencontrés, ces grands poètes du XIXe siècle. Et je terminerai sur la question de la poésie et l'Académie Goncourt, qui est une question assez importante. Je reviendrai sur le testament d'Edmond, sur la création de l'Académie. Alors si le micro fonctionne, je m'assois. Après tout, c'est plus... Pourquoi pas ? Bénéficions des avantages de la technique. Voilà. Alors, oui, ça marche ? Vous m'entendez, là ?
Oui.
Bon, très bien. Alors... Alors tout d'abord, donc, les débuts poétiques des Goncourt leurs premières armes, si vous voulez, littéraires. Alors les Goncourt sont des fils, comme beaucoup d'écrivains de l'époque, les fils d'un officier de l'Empire. Et ils ont vécu dans ce milieu militaire, un petit peu militaire, et un milieu de bourgeoisie assez aisé, qui était le milieu de ces officiers de l'époque. Le père était un gros propriétaire terrien, la mère était une héritière qui avait des rentes assez importantes. Donc ils sont issus de la bonne bourgeoisie provinciale, Lorraine. Et ensuite, ils s'installent à Paris, où ils font des études assez sérieuses, dans les bons lycées parisiens. Et là, ils sont formés par leurs professeurs dans les années 1840. On enseigne dans les lycées parisiens, on enseigne les auteurs romantiques. Insuffisamment à leur gré, on enseigne plutôt Homère ou Horace. Et eux s'intéressent déjà, comme leurs jeunes condisciples, s'intéressent déjà avec passion aux auteurs romantiques Hugo, Lamartine, Musset, qui véritablement, sur cette génération des années 1830-1840, exercent une emprise très importante. Alors, une trajectoire, le père meurt, des suites de ses blessures dans les campagnes napoléoniennes, la mère a à gérer deux fils, elle est très inquiète des finances de la famille, et elle va obliger son aîné, qui a commencé des études de droit, elle va l'obliger à prendre un emploi à la caisse du trésor. Et donc Edmond Goncourt a été, comme nombre des écrivains de l'époque, il a connu la condition d'employé. À la mort de la mère, l'héritage arrive, ils sont libérés des contraintes matérielles et ils décident de faire un grand voyage parce qu'ils ont l'intention de faire une carrière de dessinateur, d'aquarelliste, d'artiste. Alors le grand voyage, traditionnellement, c'était le voyage en Italie, mais en 1848-1849, l'Italie est secouée par des troubles très violents, le pape est chassé de ses états, son ministre est assassiné, donc l'Italie n'est pas une villégiature recommandable, et il décide de se diriger vers l'autre patrie de l'artiste, qui est l'Algérie à l'époque. L'Algérie nouvellement conquise a attiré beaucoup d'artistes, il décide de partir en Algérie. Alors pour partir en Algérie, ils vont faire ce qu'on fait à l'époque, ils vont faire une longue marche, c'est pas la marche de Mahomet, mais ils vont partir de Paris, de Bar-sur-Seine plus exactement, et ils vont traverser toute la France à pied, faisant des croquis, couchant de temps en temps chez des châtelains qui faisaient partie de leur relation, de temps en temps presque à la Belle Étoile. Donc une vie qui était celle des jeunes gens de l'époque. Ces fils d'officiers de l'Empire n'avaient pas peur de la marche. Pensons à Flaubert, qui traverse lui aussi une partie de la France pour visiter la Bretagne, et beau voyage raconté par les champs et par les grèves. Donc les Goncourt traversent à pied la Bourgogne, le Dauphiné, et ils vont jusqu'en Provence, une longue marche qui va couvrir plus de 700 km, et ils entendaient aller au gré de leur curiosité. Alors pendant cette longue marche, ils font des croquis, ils font des dessins, des vieilles maisons bourguignonnes, etc., et ils écrivent quelques poèmes. Et ils vont écrire l'un de leurs premiers poèmes, lorsqu'ils sont en Bourgogne, à côté d'Alice Saint-Reine, sur le mont d'Alice Saint-Reine plus exactement, où a eu lieu la fameuse bataille d'Alésia. Alors Vercingétorix, à l'époque, des Goncourt était un personnage qu'on était en train de redécouvrir. Hein. Il est redécouvert par les historiens romantiques, on l'avait complètement oublié. Il a été redécouvert par Amédée Thierry hein, dans son Histoire des Gaulois qui date de 1830. Et il va connaître sous le Second Empire, donc un tout petit peu plus tard, un très grand succès. Et sur la commande de Napoléon III, Aimé Millet va sculpter en 1865, donc 15 ans après le voyage des Goncourt, une gigantesque statue de Vercingétorix qui domine, si vous y avez été, le fameux mont Alise. Alors je vous lis pour vous montrer comme un professeur Limal, et tout à l'heure vous aurez des lectures qui vont être très bien faites par nos deux lecteurs. Je vous lis donc ce petit poème des Goncourt, écrit sur le mont Alise, poème donc à la gloire de Vercingétorix et à la gloire de César. « Et je les vis tous deux, l'un la face pâlie, dans sa prune d'aigle emprisonnant l'éclair, le front nu, dévasté, pour subir sans plier les orages du génie, voulant que l'univers lui fût un panthéon, bâtissant l'avenir signé du nom de Rome, l'idée et la victoire ensemble en un même homme, grand comme Napoléon. » César, c'est César. L'autre, avec les yeux bleus, la crinière blonde. Alors voyez comment on imagine Vercingétorix à l'époque. L'autre, avec les yeux bleus, la crinière blonde, et la fauve tournure et les airs du lion, debout comme un géant sur ce sauvage mont, dernière étape d'un monde. Grand homme aussi, marqué d'un saut fatal, ressuscitant sans cesse un peuple à l'agonie, pour porter sans rougir le deuil de sa patrie, s'improvisant Hannibal. Donc voilà donc un premier texte des Goncourt. Le voyage se poursuit et ils vont se rendre donc dans le Midi, ils traversent la Provence, ils vont à Marseille et là ils s'embarquent pour l'Algérie où ils vont passer un mois, hein, du 7 novembre au 10 décembre 1849. Et ce séjour en Algérie est intéressant parce que, bon, on a un témoignage, bon, de deux jeunes artistes qui prennent quelques notes, qui commencent à écrire un petit journal et qui vont aussi en Algérie écrire des poèmes. Alors en Algérie, ils vont découvrir un certain nombre de choses, ils vont découvrir le couscous. Le couscousso, et ils écrivent, le couscousso, le fond de la cuisine indigène, semoule pulvérulente, safranisée, relayant le pain, cerclant au choix un poulet, du mouton, se mariant même quelquefois à du raisin, une chose sans nom qu'on finirait peut-être par aimer. Bon, on a évolué hein, depuis. Il découvre donc tout un monde en Algérie, il découvre tout un monde de sensations inédites, visuelles, olfactives, gustatives. Ils observent le spectacle de la rue, les boutiques locales, leurs étals de fruits, les enfants. Ils voient une école coranique, un petit turc, etc. Les Goncourt sont des boulevardiers. Hein, ils aiment le spectacle des rues et des places. Et déjà, pendant leur séjour en Algérie, ils sont boulevardiers des rues algériennes. Ils aiment aussi les espaces clos, des cafés ou des bains morts. Alors ce séjour en Algérie fut pour eux une période de parfait bonheur. Jules écrira « Le mois le plus heureux de ma vie ». Venu en Algérie pour faire des aquarelles, les deux voyageurs vont aussi écrire des lettres, donc un carnet de voyage, des poèmes et des poèmes en prose, dont on va avoir tout à l'heure quelques exemples. L'empreinte de la peinture demeurait constamment présente dans ses textes, dans ses poésies, dans ses pages qui semblent parfois des transpositions de peinture, avec de constantes références à des peintres comme Decamps, notamment. Alors dans ces textes aussi, l'écriture va éclater en une multitude de touches, où s'affirme déjà une esthétique de la bigarrure, de la discontinuité, hein, qui va être caractéristique de la manière des Goncourt et de leurs poèmes en prose. Alors écrivains, peintres, les Goncourt s'attachent aux surfaces, ignorant la psychologie des indigènes, et leur attention se porte tout spécialement sur les vêtements qui avaient fasciné aussi avant eux, bien sûr, les peintres, et notamment Fromentin. Sous leurs plumes, Alger se transforme en un chatoyant vestiaire, en un kaléidoscope du costume. Et ils vont goûter, je les cite, le dévergondage oriental des couleurs les plus heurtées et les plus éclatantes. Et Alger apparaît donc chez eux comme en quelque sorte fondatrice d'une esthétique nouvelle. Alors, on va maintenant écouter la lecture de quelques textes, de quelques poèmes. Certains sont des poèmes de forme un peu traditionnelle, et d'autres des poèmes en prose, des poèmes écrits pendant ce mois de séjour en Algérie, qui marquent les débuts littéraires des Goncourt. Alors, la lecture du premier texte, c'est « Abdallah ».
Dans sa cour qu'encadraient des colonnes de marbre, voluptueusement, il fumait. Un rose arbre, un caroubier, je crois, tenait ouvert sur lui son parasol mouvant. Le soleil plein d'ennui dormait, l'œil grand ouvert, immobile, implacable, torréfiant la cour en son tapis de sable. Dans son ombre, Abdallah est fort bien. Il est là, étirant mollement ses membres de pacha, il met l'ambre à ses lèvres et, par molle bouffée, extrait du fourneau, roule à spirale argentée. Il recommence et voit dans le calme de l'air le rond s'élargissant, monter, monter, monter. Au bout d'un certain temps, Abdallah fut en fête. Il maria Cécile sur ses longs yeux. Sa tête fut prise peu à peu d'un dodelinement. Il laissa le tuyau retomber doucement. Et puis, sur l'aile d'or des rêves, ses pensées suivirent le tabac en ses blanches montées.
Merci beaucoup. Alors, on retrouve dans ce texte, bon, qui me semble intéressant, une thématique hein, qui est évidemment datée, une thématique d'époque, hein, avec l'évocation de la paresse, hein, de la sensualité, hein, suggérée par tout un jeu d'adverbes, mollement, voluptueusement, molle bouffée, etc. Une présence du soleil aussi qui est évoquée comme une force négatrice, destructrice. Le demi-sommeil du personnage aussi me semble intéressant hein, dans le texte en question. L'arabe nous est présenté comme caractérisé et poète aussi par la passivité, par la rêverie. La fumée du narguilé hein, est un élément aussi important. Les Goncourt sont des grands fumeurs, ils passent une grande partie de leur temps, mais ils ne fument pas le narguilé, ils fument du tabac, à une époque où la chose était encore très autorisée. Importance aussi peut-être dans ce texte d'un point qu'on va retrouver, la dématérialisation. Il y a chez les Goncourt, et on le reverra dans d'autres textes, un goût pour une réalité qui a perdu son épaisseur, qui s'est faite, un peu comme chez les impressionnistes, brume, brouillard, vapeur, ici fumée. Le poème nous fait assister au passage à un état second, à ce demi-sommeil, si fréquent chez les personnages des deux frères, souvent dans des états intermédiaires qui sont ceux du poète aussi, dans ces états intermédiaires entre rêve et réalité. Et le texte nous fait passer hein, d'un réel accablant, du soleil, de la chaleur, de la lumière écrasante, au monde immatériel du rêve. Hein, il y a cette progression et ce mouvement contrasté. Alors un deuxième petit texte, un deuxième poème, toujours inspiré par ce séjour en Algérie, s'intitule « Bambino ».
Bambino. Dès qu'il nous voyait, il venait à nous. Sa mise par tous les temps était la même, une chemise. Ce haillon émérite était comme un burnou, effiloqué, crasseux, accidenté de trous et tout ravitaillé de naïfs rapiéçages, enfin à délier jusqu'au brosse sauvage d'un espagnol. Souvent, nous montions tout un jour dans les quartiers du haut, croquer avec amour ces miracles de thon dont chaque mur fourmille et ces deux camps tout faits qui courent par la ville. Avec nos deux cartons, il emboîtait le pas, il nous faisait honneur de son cortège gras, et de ses grands yeux, de ses yeux de gazelle, dévorés tout le temps de boîtes d'aquarelle. Nous vécûmes ainsi, cette chemise et nous, un mois, tout un beau mois, un mois charmant et doux, un beau mois de soleil et de rêves adorables, qui s'écoula sans bruit à l'horloge de sable. Nous dessinant toujours, elle nous escortant, gambadant, s'il tombait un sou, le ramassant et riant. Puis sonna l'heure qui vous éveille, l'heure qui tinte au cœur si triste, et quand la veille, nous dîmes un bonsoir au gamin musulman. Moi triste si enfant partir, nous dit l'enfant.
Si français partout, pardon. Voitrice si français partir.
Ah oui. Voitrice si français partir, nous dit l'enfant. Oui.
Alors, bon, ce texte, merci beaucoup de votre lecture. Ce texte, je dirais, me fait penser Albert Memmi, hein, le portrait du colonisé, portrait du colonisateur, portrait du colonisé. Là, on retrouve vraiment tous les stéréotypes de cette vision, hein, coloniale. Le personnage qui est réduit à l'habit, bon, ça a une dimension aussi esthétique, hein. Qu'est-ce que c'est, ce bambino? C'est une chemise, c'est un burnous rapiécé. Et le poète s'attarde longuement sur le costume du misérable. Son rôle, c'est le petit porteur, hein. Il suit les deux frères et il porte leur carton avec leur carton d'aquarelle. Avec nos deux cartons, il emboîtait le pas. Et évidemment, ce jeune garçon est plein d'admiration, hein, pour l'artiste étranger. Et il faut dire qu'en retour, ceux-ci ne sont pas tellement bienveillants à son égard, et il le désigne de manière quand même assez méprisante et péjorative. Cette chemise, bon, quand même pas très flatteur, et son cortège gras. Alors par contre, la façon dont eux-mêmes se désignent est plutôt flatteuse, hein. On les voit avec leur goût d'esthète un peu égoïste, hein, qui vont d'ailleurs conserver toute leur vie, se passionnant pour la ville indigène. Hein, à l'époque, les Goncourt, comme beaucoup d'artistes, hein, ignorent complètement la ville occidentale, hein, dans leurs récits de voyage, dans leurs poèmes. Jamais n'est fait mention de l'Alger moderne en train de se bâtir, hein, dans ces années-là. Seule la ville arabe existe. Et idée importante aussi que j'évoquais tout à l'heure dans la présentation, le bonheur d'une vie en dehors du temps, une sorte d'heureuse parenthèse exotique, je recite le texte, un beau mois de soleil, de rêve adorable, qui s'écoula sans bruit à l'horloge de sable. On a l'impression que ce séjour exotique, c'est une sorte de parenthèse dans le temps, et le texte se termine par un retour occidental, au temps occidental, avec la rupture de la cloche. Hein. Puis sonna l'heure qui vous éveille, l'heure qui teinte au cœur si triste. Il faut dire que les Goncourt ont pensé, pendant un certain temps, s'installer en Algérie. Mais ils ont attrapé une terrible dysenterie, et ça les a fait rentrer rapidement en France. Alors, rentrés à Paris, donc, et soignés de leur dysenterie, ils vont commencer à écrire, et ils vont écrire un petit roman fantaisiste, qui s'appelle « En 18 », et qui va paraître le jour même du coup d'État. Et ils vont dire que c'est ce qui explique l'absence totale de succès et de médiatisation, pour utiliser un terme moderne, de ce petit ouvrage qui est passé totalement aux oubliettes. Alors, ils vont se lancer à cette époque-là dans le journalisme. Ils avaient un cousin apparenté, assez riche, qui avait décidé de créer un petit journal qui s'appelle L'Éclair. Et c'est l'époque où cette presse des petits journaux fleurit, hein, sous le Second Empire qui vient de commencer. Napoléon III avait interdit ou censuré très fortement la presse politique, et donc en périphérie de cette presse politique qui avait disparu, des petits journaux se multiplient. Petits journaux qui multiplient les potins sur les vies d'actrices, qui multiplient les caricatures, qui multiplient les dessins d'artistes, qui multiplient aussi les poèmes et les poèmes en prose. Et les Goncourt, donc, vont pendant un certain temps travailler dans ce journal L'Éclair, où ils vont publier de très nombreux textes, de la critique théâtrale, hein, beaucoup de critiques théâtrales, ils vont voir toutes les pièces quasiment de l'époque. Et ils vont publier également des poèmes en prose. Alors, à cette époque, le poème en prose, on est dans les années 1852-1853, le poème en prose n'a pas encore été auréolé du prestige de la modernité, hein, par Baudelaire, qui va véritablement lui donner ses lettres de noblesse, et puis ensuite Rimbaud et Mallarmé. Le poème en prose a été inventé par des marginaux, hein, comme Aloysius Bertrand, Et il s'est développé, Aloysius Bertrand, qui possède d'ailleurs beaucoup de talents de poète, hein, Gaspard de la Nuit, j'ai eu le plaisir de faire, il y a pas quelques années, cours d'agrégation sur le Gaspard de la Nuit, c'est un très beau texte, plein de fantaisie, très créatif, mais bon, on est quand même dans les marges de la grande littérature. Et il faudra attendre un petit peu plus tard. Et donc les Goncourt, par leurs poèmes en prose, vont se situer en quelque sorte, bon, avec Baudelaire un tout petit peu plus tard, à l'origine de cette forme littéraire. Et on va vous lire maintenant quelques poèmes en prose des Goncourt, et notamment le premier de ces textes, ce sont les Deux girafes, poème encore inspiré de l'Algérie, qui confronte deux cafés, un café d'Alger et un café de Sèvres. Et bon, texte un petit peu long, mais bon, j'ai trouvé qu'il était intéressant, et je vous impose de...
Ah oui, oui. Les Deux girafes. C'est une large cave avec de grands arceaux. Il y a des bancs de bois et des niches dans les murs. Au milieu, il y a une table. Et sur cette table, deux bocaux de poissons rouges. Leur grande veilleuse, dont la lumière s'endort par moments, puis s'éveille en sursaut, éclaire étrangement et font de larges ombres. Sur les bancs, des Arabes assis. Dans les niches, des Arabes accroupis fument dans l'immobilité et le silence. Le petit mort va d'une pipe à l'autre avec son réchaud. Sur un lit garni d'un mauvais matelas, trois hommes chantent et reprennent continuellement un air nasillard. Et toujours un tambour de basque, toujours frappé dans la même mesure, les accompagne. Les spirales montent des pipes, les chanteurs chantent. Les Arabes, sans mouvement, dorment dans leurs pensées. Vous reconnaissez ? C'est le café de la girafe à Alger. Passé Saint-Cloud, on trouva, en remontant la Seine vers Paris, un cabaret fort propre et fort endimanché. Il attend les voyageurs du bord de la rivière, sa porte grande ouverte. Tous les printemps, on le rebadigeonne à neuf. Printemps comme été, ce sont des bruits de verre. Le coteau de Sèvres avec ses villas aux fumées bleues est derrière lui. Le Bas-Meudon, les îles aux joyeuses saulées, toute cette idylle qui trempe ses pieds dans l'eau est tout près, à 2 minutes. Du cabaret au saule, des saules au cabaret, c'est un va-et-vient de jeunes hommes et de jeunes femmes. C'est une chaîne de joyeux deux à deux. Ils montent, ils descendent la berge du matin au soir. Et lui est là, souriant et hospitalier, appelant les canotiers de la basse Seine. Il y a régate, du pont là-bas. Entrez et entrons à la santé de la Marie Michon. Les échos y disent des chansons, les murs y chantent la gaieté. Vous voyez les deux rangées de tables aux nappes blanches, aux verres provocateurs, aux cartes cartonnées, s'il vous plaît, à cheval, sur deux tables. La mer, une matelote et du vin blanc. Les jolies parties d'amour, les jolis ménages tout autour des tables. La nuit met ses étoiles, la lune nous reconduit. Les échos y disent des chansons, les murs y chantent des gaietés. Vous ne reconnaissez pas ? C'est le restaurant de la girafe à Sèvres.
Merci beaucoup. Alors, bon, c'est intéressant, si vous voulez, cette confrontation hein, de deux univers, hein, de deux cafés, avec comme point commun une enseigne unique. Hein. Le café situé à Alger, nous est d'abord décrit, puis ensuite le café situé à Sèvres. Alors, les Goncourt vont multiplier les antithèses en opposant d'un côté, hein, vous avez été sensible à ça, la vie au ralenti, la vie paisible de l'Algérie, le silence des fumeurs, méditatif du café algérois, à la vie trépidante du restaurant des bords de Seine. Et on a l'impression que ce texte hein, s'enroule sur lui-même sous l'effet, et ça c'est un procédé qu'on va retrouver dans ses poèmes en prose, sous l'effet de redites délibérées. Et le deuxième élément du diptyque apparaît comme une sorte de chanson sur des chansons comme l'écho d'écho. Et les Goncourt vont tisser un réseau serré d'assonance et d'allitération, ils vont jouer sur les reprises de mots. Et cette reprise généralisée donne, je dirais, une tonalité assez poétique à ce texte. Alors, Les Goncourt y reprennent quelques thèmes des poèmes d'Alger avant d'évoquer l'une de ces guinguettes qu'on va retrouver très fréquemment dans leur roman, ces guinguettes qu'apprécieront Maupassant et plus tard, avec lui, autour de lui, les impressionnistes. Les deux frères apparaissent déjà dans ce texte, dans ces deux textes, à la fois soucieux d'exotisme, mais aussi de modernité. On peint le monde contemporain de cette modernité dont Baudelaire se fera l'apologiste. Hein. Ils veulent peindre un décor contemporain, un cadre cher à des peintres comme Théodore Rousseau, hein, dont en ce moment on peut admirer une belle exposition. Alors, l'autre texte, il y a encore un autre poème en prose qui va vous être lu, une tonalité un petit peu différente, et qui illustre, je dirais, cette veine de la fantaisie hein, qui va marquer la littérature de ce début de Second Empire, fantaisie qui est caractéristique d'un poète comme Théodore de Banville, qui joue sur les rapprochements inattendus, hein, qui joue sur une érudition qu'on trafique, qui joue sur des jeux de mots, hein, qui joue sur l'actualité, des allusions à l'actualité. Donc, deuxième texte, second poème en prose, « La naissance du toast ».
La naissance du toast.
Du toast, du toast. On est en train de boire, vous pouvez porter un toast. Un toast. T-O-A-S-T. Le mot toast. Portez un toast. Hein. Vous entendez mal ? Bon, on va essayer de parler encore plus fort.
La naissance du toast. Elle se baignait. Il y a de cela combien d'années, je ne sais. Comment se nommait alors le roi d'Angleterre? Je ne sais encore, mais c'était la maîtresse du roi d'Angleterre. Holbein a-t-il laissé sa portraiture? Je ne sais vraiment. La salle de bain, je ne l'ai vue. Était-ce en marbre blanc? Était-ce un cabinet de rocaille qui touchait à son appartement d'été? Et qui sans doute était le plus agréable lieu du monde, meublé de piles de carreaux de drap d'or et de vases de porcelaine remplis de fleurs, avec un lit de repos fait à la portugaise. Six courtisans étaient là qui regardaient. Tel était le bon plaisir de Sa Majesté. Avait-elle une chemise? Peut-être bien oui, peut-être bien non. À chaque mouvement qu'elle faisait, l'eau lui mettait à la gorge un collier de diamants. Elle était si belle, les cheveux dénoués, la maîtresse du roi d'Angleterre. Un des courtisans se pencha et se releva. Il avait rempli une tasse et buvait l'eau du bain. La tasse passa, le second fit comme le premier, le troisième comme le second. Le quatrième comme le troisième, le cinquième comme le quatrième. Le sixième dit « Je retiens la rôtie ». L'usage du temps était de boire avec une rôtie au fond du verre. « Toaster » veut dire « rôtir ». Et depuis ce temps, les Anglais ont toujours toasté. Cela dit, un haut de boucle dit « Il faut le croire ».
Bien, alors, bon, vous me dites hein, si vous m'entendez ou si vous ne m'entendez pas. Hein, je vais faire un effort pour parler encore un petit peu plus fort, mais à l'impossible, il me l'est tenu. Alors, ce texte donc est caractérisé par la fantaisie, je le disais un instant. Il joue sur l'érudition, hein, comme la fantaisie, comme la tradition fantaisiste aime le faire. Et ce texte tient d'une fantaisie étymologique sur l'origine du mot toast, qui est ainsi défini par le dictionnaire « dame à la santé de qui on boit ». Le nom de la dame était censé parfumer la rasade comme un toast épicé trempé dans la boisson. Alors les Goncourt vont illustrer cette définition sous la forme d'une anecdote qu'ils vont décrédibiliser au fur et à mesure qu'ils la racontent. Ce texte, en quelque sorte, s'auto-détruit au fur et à mesure qu'il avance. Je ne sais encore, je ne sais vraiment. On a l'impression que ce texte bégaye constamment. Tout se passe comme si, confronté à un interlocuteur imaginaire, les poètes faisaient profession de ne rien savoir sur le temps où l'anecdote se passe, sur les lieux où il faut la situer, sur le nom des personnages impliqués. Nous sommes proches d'une forme pratiquée notamment par Nodier dans ce qu'on a appelé le récit excentrique, avec son histoire du roi de Bohême et de ses 7 châteaux, où il n'est pas plus question de roi que de Bohême ou de château. Alors ce texte est aussi intéressant dans la mesure où il passe par un jeu de redites, par un jeu de questions-réponses, hein, comme dans une sorte de jeu de devinettes pour enfants, et qu'il se termine par une curieuse modalisation, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, et dans ce cadre, la formule injonctive finale, cela, un old book le dit, il faut le croire, prend une dimension tout à fait ironique. Alors, un dernier poème, alors peut-être que, je ne sais pas si le temps, oui, on a le temps, Maître Poitemann, un autre poème en prose, qui nous met dans un cadre tout à fait différent, un cadre flamand. Et là, nous avons une réminiscence de l'univers de Gaspard de la Nuit, hein, dont le premier livre a pour titre « École flamande ».
Non, c'est Poitemann, vous distinguez le père, le
client. Oui, moi, Poitemann, je crois que oui.
D'accord. Maître Poitemann. Maître Poitemann, Maître Poitemann, c'était une servante aux fichus rouges qui frappait au carreau, qui frappait au carreau, qui frappait bien fort au carreau. Maître Poitemann était peintre renommé de Rotterdam et avait fait des peintures, de belles peintures à Saint-Laurent. Maître Poitemann dit « Hans, donne-moi du vin de France ». Oh, Maître Poitemann, Maître Poitemann, notre maîtresse m'a envoyé à vous, peintre renommé. Le fiancé de ma maîtresse est mort, il est tout rouge de blessure. Le fiancé de ma maîtresse est mort et elle m'a envoyé vers vous. Maître Poitemann avait un large verre, il y versa le vin de France, il y versa du vin de France. Maître Poitemann, ma maîtresse vous envoie le portrait de son fiancé, que vous le fassiez tout rouge de blessure, tout rouge de blessure, et que vous mettiez une tête de mort à côté de sa belle tête. Hans regardait par les carreaux la servante qui, retournant chez elle, et il regarda encore quand elle eut tourné la rue, et qu'il ne pouvait plus la voir, et qu'il ne pouvait plus la voir. Maître Poitemann alla trouver un médecin et lui dit « Voilà son fiancé qui est mort. Voilà son fiancé qui est mort. Voulez-vous que j'aille dessiner un mort ?» Et Maître Poitemann était dans une salle où il y avait une grande table de marbre, une grande table de marbre noir. Et sur la table, il y avait des cadavres, les uns qui avaient une jambe coupée, d'autres un bras. Il y en avait d'autres qui avaient le ventre ouvert et d'autres qui avaient leur corps entier. Maître Poitemann vit un corps tout rouge de blessures, et le dessina. Et le dessina, Maître Poitemann, et il s'endormit. Maître Poitemann avait bu beaucoup de vin de France et il s'endormit. Dans la nuit, Maître Poitemann s'éveilla. Il mit la main sur quelque chose de froid. Et il eut peur des morts. Il tomba par terre et il se cassa le cou. Il se cassa le cou, raide.
Oui, alors, vous êtes, bon, ce texte montre finalement la diversité, hein, de ces sources d'inspiration des Goncourt à leur début. Hein. Ces poèmes en prose traitent de sujets multiples et avec une tonalité quand même assez commune. L'humour, bon, on est dans une scène véritablement tout à fait tragique. Une fiancée qui demande à un peintre d'aller dessiner son fiancé mort, blessé et mort, et le peintre qui se tue dans la morgue. Donc on est véritablement dans du comique. avec des effets de reprise, hein, qui sont comme dans, dans les chansons. Hein, tous ces poèmes en prose des Goncourt se caractérisent, hein, par cet aspect de reprise, de refrain, de chanson, de duplication, hein, qui n'est pas une duplication chaque fois à l'identique, hein, avec des petites variantes. Je dirais que ce texte est véritablement une chanson macabre en rouge, avec le fichu rouge de la fiancée, les blessures rouges du blessé. Mais les reprises vont ôter au macabre, je dirais, toute vertu effrayante. Ce sont des signes ludiques, hein, qui font basculer dans l'absurde l'anecdote racontée. Et la chute finale, grotesque, marque la rupture des répétitions, ironiquement. Et le poète rejoint finalement son modèle dans la mort, devenant lui aussi donc un cadavre dans la morgue. Alors, un autre texte de poésie, toujours de la même époque, hein, cette époque du petit journalisme, qui s'intitule « Mori Mundo ». Alors avec Mori Mundo, donc, qu'on va vous lire dans un instant, on revient à un univers un petit peu différent, on revient à un poème écrit en vers.
Mori Mundo. Oh, comme nous jouions sous les vertes feuillées. Elle aimait avec moi courir dans les allées, yeux expressifs des noirs, parlant selon le cœur, d'un frais, pour moins que rien se couvrant de rougeur. Et puis, quand nous quittions le jardin, la charmille, nous montions dans sa chambre, un nid de jeunes filles, petit rideau de neige avec un ruban bleu, un chapelet d'ivoire, elle aimait déjà Dieu. Un lit de mousseline égaré dans la gaze, à côté, sur la table, un bouquet dans un vase, des pinceaux, des crayons, des couleurs, des godets, et sur le mur, garni d'un papier propre et frais, quelques cadres avec des dessins faits par elle. Tout respirait la femme, encore demoiselle. J'oubliais, quelques fleurs auprès d'un buis béni surmontaient un portrait déjà vieux et bruni, le portrait de son père. Elle était sans famille, des personnes l'avaient prise comme leur fille. Elle vivait chez eux et dorait leurs vieux jours, leur faisant par son cœur les ans un peu moins lourds. Je l'aimais, comme on aime une sœur adorée, qui se joue avec vous, quoiqu'étant votre aînée, et s'il pleut, vous permet d'abîmer ses dessins, et ses livres, ceux qui vous passent par les mains, et si, par trop méchant, vous faites du tapage, vous dites en souriant, « Monsieur, soyez donc sage !» Pâle et les yeux rougis, quand vous vintes un soir, frappé, jeune martyr, à ce seuil morne et noir. Dites, n'avez-vous pas, en notes étouffées, entendu murmurer par ces belles années que l'air dans un couvent est glacial, ma sœur, et que là, tout se fane, et même le cœur.
Merci beaucoup. Alors, on est là encore dans une tonalité un petit peu différente, une poésie, je dirais, intimiste. Edmond Goncourt sera très ami de François Copé, une poésie intimiste qui évoque un décor familier, le décor de la chambre, le décor du jardin, le décor des rideaux, et qui met en scène une jeune fille. C'est pour les deux frères un personnage qui va être important, qu'on va retrouver dans leur œuvre romanesque. Ils vont consacrer un roman, deux romans d'ailleurs, un premier roman René Mauprin à la jeune fille qu'ils écrivent tous les deux. Et lorsqu'Edmond sera seul, après la mort de son frère, il écrira un nouveau roman de la jeune fille intitulé « Chérie ». Dans ce texte, nous avons une place de la religion qui est très discrète et qui va annoncer la fin du texte. Avec l'entrée au couvent en arrière-plan, cette entrée au couvent qui est un écho, je dirais, direct, hein, de Chateaubriand et de l'entrée d'Amélie au couvent dans René. Alors, encore un autre texte. Alors lui, avec lui, nous allons revenir au poème en prose. Texte intitulé « La maison de campagne d'un vieux juge ». Alors c'est un petit peu plus long, je suis désolé de...
Eh oui, une maison entre cour et jardin, mais le jardin, si mort, n'aurait pas toutes leurs aises. Mais la cour, un chien de Terre-Neuve ne tiendrait pas avec son ombre. Il est la minute précise où le petit canon du Palais Royal tousse midi. Le soleil tombe dans les deux petits puits de verdure comme un feu d'artifice d'or dans une haie. De la maison de plâtre gris, un battant de la porte verte est entrouvert sur la salle à manger. Une table, bonne pour une seule paire de coudes. Table avare, sans rallonge pour la faim et la soif survenante. Pour les galas improvisés, des heureuses rencontres, la solitude du repas, l'ennui du manger. Elle dit cela à la petite table. Et encore qu'elle n'est pas plus gaie, ni plus fêtée le dimanche que les autres jours, et que le chemin de fer ne lui amène jamais d'hôte, et que ses desserts sont toujours sans chanson, et qu'elle est laidement le meuble où, dans le seul bruit de sa fourchette, un vieillard fatigue d'un reste de dents la vieille fricassée de la vieille bonne à tout faire. Derrière la salle à manger, les contrevents sont poussés. Par un œil de bœuf ouvert derrière une ruelle, le soleil rougeoie à travers les rideaux de lits de calicot rouge, chambre ardente rêvée par le cauchemar d'un marchand de vin condamné à la guillotine. Pas une de ces empreintes humaines qu'imprime un homme aux choses de son entour, pas un désordre, pas un flambeau hors de sa ligne, pas la gaieté nantie d'une couleur. Rien qui décèle un goût de la jolie chose ou de la fleur, une chambre vide de la vie vivante. Dans le cabinet voisin, tout est noir, il pue vaguement, et de fades relents et de poussiéreuses senteurs y rampent et s'y mêlent. Un je ne sais quoi de flottant, d'impalpable, de tassé se balance dans l'air cinéraire, comme si les bouquins endormis rêvaient. Il est des hôtes et des bruits en ces ténèbres murmurantes. Ainsi que dans une babel de lois, parmi les tripiers et les merlins, susurrent des voix ergoteuses, des jugailleries confuses, des dialogues de normands à manceaux, une cacophonie avocatière, un frôlement de paperasse, un balbutiement de vieux procéduriers. Au milieu des livres de droit, bien comptés, bien complets, est le Voltaire en 70 volumes, un peu moisi. La pièce est humide, pleine d'une âpre fraîcheur. C'est bien la crypte bourgeoise élevée à Candide. L'officiant y a tout ce qu'il faut pour célébrer l'office. La table d'acajou où les testaments s'écrivent, la chaise curule en maroquin vert, un coupe-papier en buis jaune, une grosse paire de lunettes d'argent, et aussi une calotte grecque brodée dans le salon d'une maison de prostitution pour Monsieur Dimanche. Le salpêtre a fait sa proie de Yorick de Ferney. Des vers pèsent dans la pucelle. Une bonne moitié de l'esprit de Zadig est tombée en pourriture. Une gangrène de larges taches jaunes s'est mise au papier de quel qui se meurt. Et en plein sel français, dans les boutades et les malices, des souris campent, mangeant à belles dents les plus guettés des railleurs. Et cela est triste, fort triste, plus triste peut-être qu'une princesse allemande médiatisée recommandée au conducteur d'une diligence française. D'ordinaire, sur les rayons, Rousseau est à côté de Voltaire. C'est pour les bonnes gens. Pour les cœurs sensibles, un soulagement incomparable et une bien précieuse ressource que d'avoir ainsi le médecin de l'âme tant mieux, côte à côte avec le médecin de l'âme tant pis. Mais ici, point de Rousseau, nulle toute petite odeur de pervenche, nulle minuscule consolation d'utopie. Voltaire tout seul, miroir unique dans lequel le vieillard regarde son esprit. Voltaire, maître absolu de ce mur dont il descend pour jouer des niches à la conscience de son propriétaire. Le voyez-vous tenant à sa goutte une compagnie moqueuse et qui souffle sur les châteaux de cartes du moribond, qui fait les cornes à ses attendrissements, qui tour à tour lui promet Dieu, le diable et le néant, qui compte des gaudrioles à ses vieux sens, qui le berce et le berne, qui le turlupine, qui le barbouille, le confesse et fouette à tour d'ironie sa raison comme un sabot. Il rôde tout autour, voletant, sautelant, gambadant, l'hôte des vieux logis, le lutin des foyers célibataires, trilie et trique, enveloppé d'une étoffe à ramage, un bornet de soie noire à son petit crâne, statue de Houdon réduite à 2 pouces, que d'un rire de casse-noisette ameute par instant les échos de la maison morte. Dans le jardin, un sapin à tout prix, la place et l'air et les fenêtres. Il pousse magnifiquement, comme s'il poussait en de l'engrais humain. Autour des rosiers maladifs, s'affaisse et se courbe, penchant à terre des fleurs traînantes, pâmées et expirantes, d'où montent des arômes fermentés, des parfumeries d'alambic, un air lourd chargé de résine et d'essence de rose. Sous l'arbre, accroupi, mendiant le soleil, un vieux chat, un vieux chien, il tremblote sur place. Le chat n'a plus de ronron. Le chien est râpé comme un vieux chapeau. Assise dans ce jardin, une fille, son chapeau sur la tête, les deux mains sur un panier de paille noire, une fille pâle, les yeux bistrés, les lèvres plates, attend, inoccupée.
Merci beaucoup. Alors, cette peinture d'intérieur, bon, particulièrement sinistre, hein, nous plonge dans un autre... cet univers que, bon, finalement, les Goncourt détestent, hein, cet univers de cette petite bourgeoisie, sans objet d'art, sans... Voltaire est omniprésent, qui pour eux incarne ce qui, sur le plan idéologique, leur paraît le plus négatif. Et bon, ils vont écrire, Edmond va écrire un roman qui s'appelle La maison d'un artiste, beaucoup plus tard, dans lequel il décrit ses collections d'Auteuil, qui vont servir à la création de l'Académie. Et cette maison d'un artiste est exactement le contraire de ce poème en prose qui décrit cette maison d'un vieux juge, sinistre, trop bien rangée, sans aucun objet d'art, avec un vieux Voltaire que les vers sont en train de dévorer. Alors, je voudrais bon, avancer un petit peu, jusqu'à...
Ça va,
on est dans les délais. Alors, je voudrais dire quelques mots sur les poèmes en prose dans le journal des Goncourt. Jusqu'à présent, on avait évoqué les poèmes en prose dans la petite presse. Hein. Et maintenant, je voudrais évoquer la place de la poésie et la place des poèmes dans le journal des Goncourt. Alors, le journal, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'œuvre majeure des Goncourt, hein, donc qui couvre un demi-siècle de vie littéraire. Ce journal contient surtout des portraits, des conversations, conversations notées lors des dîners, notamment des dîners manies. Mais le journal contient aussi un certain nombre de réflexions sur la poésie, sur la... Vous m'entendez, là, ça va ?
Bon. C'est mieux. Hein.
Bon, je suis en progrès. Bon, vous me rassurez. Alors... le journal donc développe un certain nombre de réflexions sur la poéticité. Hein. C'est une époque à laquelle on remet de manière générale en question le vers. Doit-on écrire en vers ou doit-on écrire des poèmes en prose ? Et les Goncourt vont avoir sur cette question un avis très tranché. Ils vont donner la parole à Théophile Gautier dans leur journal le 12 mai 1857. Gautier a dit que quand il voulait faire quelque chose de bien, il l'a toujours commencé en vers, parce qu'il y a toujours une incertitude sur la forme de la prose, tandis qu'un vers, quand il est bon, est une chose frappée comme une médaille, mais que les exigences de la vie imposent parfois la prose. Donc la prose serait par défaut. Mais les Goncourt ne semblent pas partager l'avis de Gautier. Pour eux, le vers, nous disent-ils dans leur journal, serait une contrainte qui, loin de favoriser la poésie, la stériliserait, la renverrait à des formes surannées. Ils vont juger sévèrement, je les cite, « la recherche puérile des mots sonores qui grisent la rime dans la légende des siècles ». Pour eux, le vers est souvent une forme vide qui exclut toute pensée. À propos de Le Comte de Lisle, ils écrivent encore « je suis frappé dans la poésie de Le Comte de Lisle de la difficulté pour le poète de suivre une idée. À tout moment, la rime fait bifurquer la pensée. Il y a donc chez eux un refus constant du lyrisme qui rappelle les échanges de Flaubert dans ses lettres à Louis Scollet. Voici ce qu'ils écrivent à propos du lyrisme. Les transports lyriques sont en général prudomesques. Et Edmond va se déclarer, je le cite encore, prêt à donner tous les condors de Le Comte de Lisle et même toute la lyrique friperie de la légende des siècles de Hugo pour une page des mémoires d'outre-tombe. Le vers, donc, chez eux, ne ferait pas donc bon ménage avec la poésie. Et on vient de le voir avec les exemples déjà qui ont été donnés. La poésie doit donc désormais se faire en prose, car, écrivent-ils encore dans leur journal, toute l'imagination du temps présent est dans la prose. Les Goncourt rêvent d'une nouvelle forme de littérature pour laquelle le mot roman et le mot poème semblent mal convenir. Et ils évoquent un poème en prose de sensation, et Goncourt émet même l'idée de tirer de son journal un volume qu'il intitulerait « Les poésies d'un prosateur ». Le journal donc nous propose toute une série de poèmes en prose qui peuvent être caractérisés par deux tendances. La première est la peinture d'une réalité triviale, non poétique, qui crée une tension déjà constatée avec le désir de poésie. Et de l'autre côté, un constant souci, qu'on a vu déjà dans les poèmes d'Alger, le souci de matérialiser. Le souci de dématérialiser. Alors nous avons chez eux, je l'ai déjà évoqué, une omniprésence du vaporeux, de la brume, de la nuit. Et dans leur journal, nous avons un certain nombre de morceaux de bravoure descriptifs dans lesquels les contours s'estompent, les jeux de l'ombre et de la lumière vont enlever au paysage leur épaisseur. Et le crépuscule est l'heure par excellence de cet effacement, où je cite les Goncourt, où l'on dirait que la réalité se retire de tout, que la vie s'évapore, que les visions commencent à s'approcher de l'âme comme des yeux. Et ces visions flottantes occupent dans leur page poétique, de prose poétique du journal, place très importante. Et ils vont très souvent décrire des paysages aperçu à travers ces halos vaporeux, halos de la brume, halos de la fumée du tabac, qui rendent le monde immatériel et aérien. Alors chez les Goncourt, la notion de réalisme se trouve ainsi subvertie par une volonté de poétiser le réel en l'esthétisant, en le dématérialisant. Alors, il y a, je dirais chez eux, une double tendance. D'un côté, ils s'affichent comme les créateurs du naturalisme, avec ce roman de la domestique que j'évoquais tout à l'heure, Germini la Certeux, 1865, roman de la domestique hystérique et nymphomane. Et de l'autre côté, comme les créateurs d'un réalisme poétique, très présent dans ses poèmes en prose et dans ses pages de prose poétique du journal, dont on va maintenant nous lire quelques exemples. Alors, je vous donne la parole pour le texte numéro 8, qui est une description d'un paysage de forêt. Ils sont en 1864 chez leur ami Louis Passy, dont les parents, le père est ministre, a été ministre des Finances. Il possède une belle propriété avec une forêt à Croissy, et c'est le parc qui nous est décrit dans ce texte, le 16 octobre 1864.
Ce soir à 9h, nous allons dans le parc. C'est d'abord une allée de haute futaie où est une lumière de limbe et de théâtre qui a l'air d'une lumière électrique au travers d'un globe dépoli, une lumière aérienne baignant les feuilles, leur enlevant leur vert cru et en faisant comme un mur de frissons et de fines feuilles d'épines touchant des bouts de feuilles qu'elles transpercent d'une pâleur semblable à l'eau d'un fleuve où tremble du gaz noyé. Ça et là, dans les percées, des filets d'arbres se lèvent, tout noirs sur la lumière de la prairie et sur la lumière du ciel. Le ciel est comme un brouillard blanc sur un fond bleu. Là-dessus se détachent les arbres, en bouquets de feuilles légers et vaporeux, comme des frottis de verdure, du pinceau de Watteau ou des aquarellistes anglais. on entend que le trot menu du lapin dans les feuilles, et de temps en temps, le bruit d'une seule feuille que détache l'automne fait le bruit d'un pas d'ombre. Silence vivant du bois, frisolie des feuilles, respiration tendre et mourante des fourrés. Une allée, des troncs coupés d'ombre, les lignes d'ombre sur le mur des arbres, des ébrures d'ombre et de lumière sur le chemin, sautant et montant les arbres. Une arcade d'ombre, puis tout au fond, une petite porte de lumière, les feuilles éclairées comme d'un givre. La lumière est diffuse et vaporeuse, comme de la lumière le matin sur une rivière. Il y a sur les prairies le vert incolore et lumineux de la nuit. Dans les grands espaliers de lumière des allées, pas d'enfoncement, pas d'ombre, toute une grande surface frisotée et tremblante sous la lune. Sur ce ciel qui n'est pas une couleur, mais une lumière endormie. Le toit du château, sa ligne, les mansardes, les cheminées, les saillies noires comme de l'encre. Les formes vagues des bois lointains s'estompent avec des contours cotonneux sur le ciel. Des silhouettes d'arbres entrevues comme à travers la buée d'un carreau. La nature couleur de rêve, une verdure élyséenne d'un promenoir d'arbres. La lune dans le ciel comme un diamant dans un lait d'opale. Des avenues tout ombreuses avec le noir des filets d'arbres et le dôme qui se perd dans le ciel en douceur de verdure incolore, en légèreté de plumes. Cela ressemble à l'âme du paysage de Watteau. Des fonds de bois touchant à la lumière du ciel et de la prairie et s'y fondant doucement, lumineux.
Merci beaucoup. Donc, vous voyez, je multiplie les textes pour essayer de bien donner la tonalité de cette poésie des Goncourt, hein, cette poésie du vaporeux, de l'estompé. Hein. Ils aiment beaucoup Watteau et on comprend quand on voit leur description les raisons de cet intérêt pour Watteau. Alors, un autre texte du journal, plus tardif, hein, le 3 juin 1877, qui évoque là encore ces jeux d'éclairage et d'estompage que vous lisez. Merci beaucoup.
Par la luminosité spectrale que fait dans la pierre d'une capitale un coucher de jour, des silhouettes noires marchant un journal devant le nez, sur le bitume mou un glissement. Un bruissement d'être silencieux dans le crépuscule, allant au kiosque, illuminé du rouge transparent des annonces de l'eau de Watteau et s'accumulant en un coin du boulevard. Puis tout à coup, de ces tas d'hommes sous les arbres dont le gaz éclaire le feuillage poussiéreux, s'élève un murmure de phrases en une langue inintelligible qui devient un braillement énorme. Ceci, c'est la petite bourse du boulevard des Italiens, un de ces soirs de bataille parlementaire.
Donc encore, si vous voulez, tous ces jeux d'éclairage et cet art de saisir, un peu à la manière de Baudelaire, la modernité de la ville. Et un dernier texte qui est un extrait de leur roman, Annette Salomon, hein, c'est un roman dans lequel les Goncourt essaient de montrer, de mettre en scène des artistes, des peintres, et de montrer les évolutions de la peinture à leur époque. Rassurez-vous, le texte est court.
Puis il longeait la petite mare à côté, enfermant une eau faux dans sa cuvette de pierre blanche, à la marge mamelonnée, ondulante et rongée. Il s'asseyait quelques minutes au petit café de Franchard, repartait, retrouvait les arbres, retraversait encore une fois le bas Bréau. Il se faisait à cette heure une magie dans la forêt. Des brumes de verdure se levaient doucement des massifs où s'éteignait la molle clarté des écorces, où les formes à demi flottantes des arbres paraissaient se déraidir et se pencher avec les paresses nocturnes de la végétation. Dans le haut des cimes, entre les interstices des feuilles, le couchant de soleil en fusion remuait et faisait scintiller les feux de pierreries d'un lustre de cristal de roche. Le bleuissement, l'estompage vaporeux du soir montait insensiblement, des lueurs d'eau mouillaient les fonds, des raies de lumière d'une pâleur électrique et d'une légèreté de rayon de lune jouaient entre les fourrés, des allées, du sable envolé sur les voitures, Il se levait peu à peu un petit brouillard aérien, une fumée de rêve suspendue dans l'air, et que perçait le soleil rond, tout blanc de chaleur, dardant sur des arbres toutes les flammes d'un écrin céleste. La fenêtre de Rembrandt, où il y a un prisme, où se jouerait la Titania de Shakespeare dans une toile d'araignée d'argent. C'était ce paysage du soir.
Merci beaucoup. Alors vous retrouvez ici ce goût, évidemment, des références aux peintres et au monde de Shakespeare. Bon, vous avez tous deviné qu'il s'agissait, bien sûr, Franchard, Babréau, hein, d'une description de la forêt de Fontainebleau, hein, qui à l'époque, bon, inspire les peintres, qui va inspirer aussi nombre de romanciers. Hein. Flaubert va lui consacrer de très belles pages un petit peu plus tard. Alors, bon, cette prose poétique que ces textes mettent bien en valeur va trouver un écho chez les Goncourt dans une forme d'écriture dont ils se veulent les inventeurs et qu'ils appellent l'écriture artiste. Voulant réagir contre ce que Mallarmé appelait la prose omnibus du fait divers, refusant le souci de clarté d'un mot passant, s'opposant à ce que Barthes appellera le degré zéro de l'écriture, ils ont voulu que leur écriture soit vraiment signée. Et leur signature, c'est tout d'abord une dislocation de la syntaxe, une multiplication des néologismes, et leur objectif, c'était de rendre par leurs phrases les sensations dans une sorte d'immédiateté. Hein, et ceci, donc, est caractéristique de l'écriture artiste, qui illustre bon, un dernier texte que je vous propose, extrait de leur roman intitulé « Les frères du roman d'Edmond », parce que Jules est mort à ce moment-là, un roman paru en 1879 qui s'appelle « Les frères Zemgano » et qui est une sorte d'autobiographie qu'Edmond de Goncourt écrit des deux frères, mais il est présent en saltimbanque. Hein. Les frères Zemgano sont deux acrobates de cirque, le cirque à l'époque a un très grand succès, et Edmond donc va écrire ce roman en écriture artiste. Alors, c'est le texte numéro 10.
Non,
11. 11, excusez-moi. Je me suis trompé de page.
Et par cette existence éternellement voyageuse dans toutes les saisons diverses, à travers toutes ces contrées dissemblables, il était donné à ce monde de toujours avoir devant soi l'espace libre, de toujours être dans la pure lumière du ciel, de toujours respirer le plein air, de l'air venant de passer sur des foins ou des bruyères, et de s'enivrer matin et soir, les yeux du spectacle nouveau des aurores et des crépuscules, et de s'emplir les oreilles des rumeurs confuses de la terre, des harmonies soupirantes des voûtes de forêt, des modulations flûtées des brises dans les roseaux qui ondulent, et de se mêler avec un âpre plaisir à la tourmente, à l'ouragan, à la tempête, aux orages et aux batailles de l'atmosphère, et de manger aux haies, et de boire à la fraîcheur des sources, et de se reposer en de la grande herbe, avec des chants d'oiseaux sur la tête, et de s'enfoncer la figure dans les efflorescences et les senteurs balsamiques des plantes sauvages, échauffées par l'heure de midi, et de s'amuser à retenir captive un moment dans sa main fermée la liberté d'un animal de la plaine du bois, et de rester, selon l'expression de Chateaubriand, abbé au lointain bleuâtre, et de rire au coup de soleil d'été sur un lièvre en train de faire chandelier dans un sillon de champ, et de causer avec la tristesse d'un bois d'automne en remuant sous ses pas des feuilles mortes, et de se procurer le molle engourdissement de l'isolement songeur, la griserie sourde et contenue de l'homme primitif, continuellement en contact amoureux avec la nature, enfin de satisfaire par tous les sens, par tous les pores, pour ainsi dire, ce que Liszt appelle le sentiment bohémien.
Merci beaucoup. Alors, je passe maintenant au deuxième point que je voulais évoquer avec vous, qui est la présence des poètes et les portraits de poètes dans le journal des Goncourt. Alors, le journal des Goncourt voit défiler, hein, tous les grands noms de la poésie de l'époque, qui ont été rencontrés à des dîners, rencontrés dans des brasseries, à l'époque l'IP n'existait pas encore, qui ont été accueillis aussi au grenier d'Auteuil, ou qui ont été tout simplement évoqués dans des conversations. Alors on peut reprocher au journal de voir les choses par le petit bout de la lorgnette. Il a pourtant le grand mérite de faire revivre la vie littéraire dans toute sa diversité. Il va évoquer les différentes générations, mettant en scène les grands aînés, Hugo, Gautier, Banville, le comte de Lille, que l'on voit évoluer, vieillir au fil des pages. Et il va aussi brosser les portraits des poètes de jeunes générations, après Verlaine, Rimbaud, voici Mallarmé, et les poètes symbolistes. Alors le journal va croquer des portraits talentueux avec l'art de saisir le trait saillant, mais bien plus souvent le ridicule, la marque d'un individu. Ces portraits, au jour le jour, nous donnent une vérité momentanée, Edmond insiste beaucoup là-dessus, je veux peindre les êtres dans leur vérité momentanée, une vérité qui ne manque donc pas d'évoluer au fil des années. Alors dans cette peinture des poètes et des écrivains, les Goncourt sont attentifs au jeu des réseaux, aux phénomènes de groupe. Et ils sont attentifs aussi, je le disais, aux conversations. Et le journal nous montre ces poètes le plus souvent comme de brillants causeurs, dont les propos sont volontiers sténographiés. Goncourt note la méchanceté de Le Comte de Lille, la conversation sonore de Hérédia, les talents de conteur d'un Copé ou d'un Banville. On collationne, le journal va collationner les bons mots. Verlaine, par exemple, se lamente de ses amours malheureuses. Voici ce qu'il dit. « Les femmes que j'ai aimées m'ont trompé avec des hommes, et les hommes que j'ai aimés m'ont trompé avec des femmes. » Ces pages de Goncourt vont donc fournir aux biographes toute une série d'anecdotes curieuses qui ont été largement exploitées sur les ivresses de Verlaine, sur les liens avec Rimbaud, sur la vie matérielle de ces artistes en proie parfois à la misère. Voici un petit passage qui évoque encore Verlaine. « Huysmans nous conte la mort de la mère de Verlaine. La mère et le fils demeuraient chez un marchand de vin. Le fils au-dessous, les jambes malades et ne pouvant se lever de son lit. La mère au-dessus est gardée après sa mort par des amis de Verlaine ivres-morts. Et toutes les difficultés avec les amis et les croque-morts, sous les uns comme les autres, pour faire passer la bière, c'est pas la vôtre, dans l'étroit escalier. Descente pendant laquelle s'ouvre un instant la porte du fils, auquel on passe un goupillon pour jeter de l'eau bénite sur son lit. » Alors c'est épouvantable, mais en même temps, je trouve que c'est drôle. Bon. Alors, l'œuvre littéraire n'est pourtant pas ignorée au profit de l'homme, et Edmond va discuter volontiers les choix poétiques de ses contemporains. Il va se montrer très sensible à la musicalité des poèmes de ce Verlaine, bon, qui va pourtant décrire, et à propos duquel il raconte toute une série d'anecdotes, plus ou moins authentiques, mais sans doute plus que moins. Alors, Hugo. Hugo est la figure majeure, évidemment, de ce monde des poètes qui apparaît dans le journal. Hugo fascine les deux frères à leur début par son romantisme fantaisiste. C'est un mot sur lequel je reviens constamment à propos des Goncourt. Pourtant, à côté des éloges, vont bientôt se multiplier les réticences. La lecture de Hugo va amener les Goncourt à définir leur esthétique, qui se construit volontiers contre celle du créateur de la légende des siècles. La lecture de la légende des siècles pose effectivement pour eux la question essentielle des rapports de la littérature et de la peinture, qui a tant marqué leur début, mais ils tiennent cependant à défendre la spécificité de chacun des arts. Voici ce qu'ils écrivent. « Et n'est-ce pas faire la plume petite que de la faire rivaliser avec le pinceau ?» se demande-t-il à propos justement de Hugo, dont il considère qu'il est trop peintre. L'idéalisme social de Hugo, que va illustrer en 1862 la publication des Misérables, est à rebours de la pensée positiviste et conservatrice des Goncourt. Alors, les Goncourt vont bien connaître Edmond va bien connaître Victor Hugo lorsque celui-ci revient d'exil. Il va partager de nombreux repas avec lui, et le journal fait alors vivre l'homme Hugo de manière, je dirais, très proche et très sympathique. C'est un Hugo qui fait l'éloge des restaurations de la Sainte-Chapelle et de Notre-Dame. C'est un écrivain, je cite le journal, aimable, simple, bonhomme, pas le moins du monde sibyllin, ni décréteur en parole. Edmond Goncourt va pourtant bientôt marquer des réserves vis-à-vis du culte républicain dont Hugo est l'objet et qui va atteindre son paroxysme lors des fameuses funérailles de 1885. Alors un autre poète de la même génération avec lequel Edmond Goncourt et les deux frères plutôt vont entretenir des relations très importantes est Banville. Alors Banville est vanté pour sa conversation, quelques petits portraits de Banville. Banville avec sa mine blafarde de Pierrot, son fausset d'oiseau, c'est sa voix, ses fins paradoxes, les jolies silhouettes qu'il traçait des gens. Les Goncourt, les deux frères vont s'intéresser donc à Banville et ils vont décrire son intérieur et avec ses descriptions revit tout un monde de la bohème. Ils vont lui rendre visite et là on remonte dans le temps en décembre 1856, boulevard de Clichy où Banville vit avec une femme surnommée Chien Vert alias Marie Daubrin qui est une comédienne qui fut aussi proche de Daudet et de Baudelaire. Et c'est la pauvreté, la grande pauvreté dans ces petites pièces où le poète corrige les épreuves des hôtes funambulesques. Voici le décor du poète. Un feu de charbon, une absence de meubles, déguisé par quelques chaises, flânant autour d'un fauteuil, je ne sais quoi, qui sent la vie de travail, tracassé, dérangé, tourmenté, les dettes, les déménagements. Un foyer de hasard, je ne sais quelle tristesse, quelle lutte, quelles angoisses racontent muettement ces murs. Alors Banville est un brillant causeur, mais les Goncourt apprécient sa compagnie. Mais bientôt, et alors là je vais donner quelques citations du journal encore, pour montrer que finalement les meilleures amitiés, mais ça on le sait tous, parfois se dégradent. Voici comment Goncourt, qui tout d'abord est séduit par la conversation de Banville, se montre petit à petit agacé. L'apparente douceur de Banville fait tout à coup place quand on jette une objection dans un de ses paradoxes laborieusement construits à un enragement ressemblant un peu à celui d'un animal sur la queue duquel on marche. Et cet homme, à la politesse confite béate, devient soudainement mal élevé. Encore une petite note aimable. Banville, quand il commence maintenant à pérorer, je voudrais avoir de la cire pour me la mettre dans les oreilles. Tant je connais le procédé, tant je suis fatigué de cet esprit fait de coups d'hyperbolisme, tant cette parole convulsive mais pénible à voir jaillir de ses mâchoires serrées. J'ai tout le temps, maintenant que parle Banville, l'impression désagréablement nerveuse d'un spectateur qui regarde un vieux clown faire un saut périlleux en craignant tout le temps qu'il ne se casse les reins. Banville pourtant avait été très aimable pour les Goncourt et il avait écrit sur les deux frères un poème qui chantait leur amitié. Donc c'est, je crois que je vous l'avais, le poème de Banville qui fait l'éloge de l'amitié fraternelle.
En quelques distiques. Comme sur un beau lac où le feuillage tremble, deux cygnes dans l'azur au loin voguent ensemble. Comme de fiers chevaux buvant au flot des airs, courent échevelés dans le feu des déserts. Comme un bas-relief, plus blanc que les étoiles, s'avance le front haut de vierges aux longs voiles. Comme deux vers jumeaux volent d'un même essor, attachés par la rime avec des liens d'or. De même, avec amour, frère, vos deux pensées marchent d'un pas égal, l'une à l'autre enlacées. Ô poètes heureux, comme dans votre esprit le même ardent rayon sur vos lèvres fleurit, et par un double effort, vos âmes fraternelles, vers le même idéal, ensemble, ouvrent leurs ailes.
Alors on est bien loin, vous voyez là, des médisances, mais qui sont beaucoup plus tardives, hein, d'Edmond Goncourt, à propos de ce poète qui avait si bien chanté l'amitié et l'affection fraternelle. Alors un autre protagoniste important du journal, c'est Gautier, qui n'est pas peint, je dirais, de manière tellement plus flatteuse, même s'ils aiment beaucoup Gautier, même s'ils l'admirent. Alors ces peintures sont souvent des peintures physiques. Hein. Gautier fait sa première apparition dans le journal, très tôt aussi, en août 1853, dans une sorte d'éclair vestimentaire bariolé et original. Voici l'apparition de Gautier. Gautier, allant de la rue de la Tour d'Auvergne, au temps corriger ses épreuves, chemise rose ou verte, pantalon gaine gris, pantoufles vertes. Bien vite s'impose une autre image de Gautier, une image lourde, lente, pâteuse, de Gautier présenté comme un pachyderme. Gautier, face lourde, tous les traits tombés, un empattement des lignes, un sommeil de la physionomie, une intelligence échouée dans un tonneau de matière, une lassitude d'hippopotame. Alors, Gautier est portraituré comme un monument de lourdeur et d'immobilisme. Je cite encore, torpide comme un sphinx et un poussa. Encore, très pâli, ses traits de lion encore plus effacés. Voici Gautier en mouvement. Il avance du pas lent et balancé, alors je cite encore, il avance, citation, du pas lent et balancé d'un éléphant qui, après une traversée, se souvient du roulis. Le corps de Gautier apparaît en contraste avec sa voix, je cite, « trop petite pour le corps, mal notée, et pourtant, avec l'habitude, harmonieuse et presque agréable. » De même que la voix est disproportionnée par rapport au corps, l'esprit de Gautier étonne. Il est mobile, alors que le corps s'appesantit sur place. La lassitude de la chair et les tourments de l'esprit se mélangent dans un portrait tout en contraste, à la fois de véhémence et de passivité. Alors, j'avais encore un petit texte à lire à propos de Gautier. Lors d'un dîner chez la Païva, hein, les Goncourt mettent en scène Gautier, ils sont reçus chez la grande courtisane la Païva, hein, en bas des Champs-Élysées. L'hôtel de la Païva existe toujours, et il appartient à un club, on peut le visiter d'ailleurs. Et Gautier est peint dans ce décor. Et le texte 13.
Chez la Païva, journal 14 février 1868. Belle chose la richesse, elle fait tout pardonner. Et nul de ceux qui viennent ici ne s'aperçoit que cette maison est la plus inconfortable à Paris. Impossible à table de boire un verre d'eau rougie parce que la maîtresse a eu la fantaisie d'avoir pour bouteilles et carafes les cathédrales de cristal qu'il faudrait un porteur d'eau pour soulever. Dans la serre, où l'on fume après le dîner, l'on est mijolé par les courants d'air d'en haut, mi-étouffé par les bouffées de chaleur des bouches de chaleur. Et à peu près ainsi de tout. Il y a un thé splendide, mais demander un verre d'eau, n'importe quoi absent du programme, c'est un aria, comme dans une toute petite maison. Et Gautier, dans cette maison inhospitalière de tous les côtés, à côté de cette femme s'en reculant brusquement et peureusement par crainte que son cigare ne brûle sa robe, Gautier sème intarissablement les paradoxes, les propos élevés, les pensées originales, les perles de sa fantaisie. Quel causeur, bien supérieur à ses livres, et toujours dans la parole, bien au-delà de ce qu'il écrit. Quel régal pour des artistes que cette langue au double timbre qui a les deux notes souvent mêlées de Rabelais et d'Henri Heine, de l'énormité grasse ou de la tendre mélancolie. Il parlait ce soir de l'ennui qui le ronge. Il en parlait comme le poète et le coloriste de l'ennui.
Donc vous voyez, à côté de la méchanceté, il y a quand même une sensibilité poétique, hein, au talent de ces poètes proches. C'est la même chose pour Baudelaire, hein. Les Goncourt sont très proches de Baudelaire par leur goût de la modernité et par leur refus du monde moderne. Comme lui, comme Baudelaire, ils sont partagés entre la compassion et la cruauté, la mélancolie et l'élan lyrique, l'exaltation du sensible et le sentiment constant du périssable. Comme Baudelaire, ils s'intéressent à la poésie en prose. Comme Baudelaire, ils se méfient des trop beaux sentiments. Ils ont une certaine misogynie qui leur est commune. Mais pourtant, les Goncourt méconnaissent Baudelaire. Ils voient seulement en lui le traducteur et un peu le plagiaire de Pau. Ils insistent sur son mauvais goût, sur ses provocations, Et ils font de lui une description sans aucune tendresse hein, lors d'un repas qu'il partage au Café Riche en octobre 1857. Je cite « Baudelaire soupe, sans cravate, le col nu, la tête rasée, en vraie toilette de guillotiné. Une seule recherche, de petites mains lavées, écurées, mégissées. La tête d'un fou, la voix nette comme une lame, une élocution pédantesque, il vise au Saint-Just et l'attrape. Il se défend assez obstinément, avec une certaine passion rêche, d'avoir outragé les mœurs dans ses vers. Hein, c'est 1857, au moment du procès des Fleurs du Mal. Alors, dernier poète que je voudrais rapidement évoquer, qui fut proche également d'Edmond de Goncourt et qui fréquenta le Grenier, c'est Mallarmé. Avec Mallarmé, Goncourt oppose constamment l'homme et l'œuvre dans ce rapport qu'il établit toujours dans le journal entre le personnage de l'écrivain et sa création. Il note « Aujourd'hui vient Stéphane Mallarmé, il n'a rien du logogriffe de sa poésie. » Car curieusement, une fois encore, Goncourt reproche à Mallarmé ce que lui-même pratique comme écrivain, le souci de s'écarter du langage populaire, le goût des mots rares, le rejet de la syntaxe classique. Et Mallarmé est présenté comme un convive aimable et comme un causeur très courtois et très sympathique. Alors je voudrais conclure sur l'Académie Goncourt et les poètes. L'Académie Goncourt et les poètes, Edmond Goncourt commence à songer à sa future Académie dès la mort de son frère en 1870. Et un premier projet de testament, qui datait de 1874, fut suivi toute une série d'autres projets, et Edmond déposa son projet définitif en 1892 chez son notaire. Alors, le testament final prévoyait la création d'une Académie et d'un prix financé par la vente des collections. Les 10 académiciens toucheraient chacun l'équivalent de 20 000 euros dans le testament de Goncourt et qui a pu pendant un certain nombre d'années se réaliser, l'équivalent de 20 000 euros par an et le montant du prix Goncourt serait de 5 000 francs or, c'est-à-dire à peu près 18 000 euros, l'équivalent de 18 000 euros. La vente des collections des dessins et des collections d'objets d'Edmond rapporta 4 millions d'euros, hein, ce qui permet une somme quand même assez considérable, ce qui permit de financer pendant un certain temps ses souhaits hein, et de verser aux académiciens et de verser aux lauréats du prix une somme relativement importante. Ce qui mit fin évidemment à cette manne, c'est la dévaluation du franc or en 1928. Alors, ceci est un petit peu à part, mais le testament prévoyait que la société Goncourt serait exclusivement composée d'hommes de lettres et que le prix, à l'époque, il était dans le testament baptisé le prix des Goncourt, était qualifié de prix d'imagination en prose. Hein, c'est un prix d'imagination en prose qui serait donné, dit encore le testament, à la jeunesse, à l'originalité du talent, aux tentatives nouvelles et hardies de la pensée et de la forme. La poésie là-dedans, du moins sous sa forme versifiée, était totalement exclue, semble-t-il. Pourtant, Goncourt avait ouvert les portes de sa future académie très tôt, dès son testament de 1874, à Banville, qui était d'abord un poète. Alors, Banville, quand il a connu beaucoup plus tard le contenu des testaments, réservé donc à des prosateurs, il figurait encore sur les testaments, il s'est offusqué et il a écrit un article dans le journal Gilles Blas du 9 juillet 82, dans lequel il s'étonnait de voir les poètes exclus de la future académie et il avait pris contre Edmond la défense de la poésie, donc qu'il qualifiait de langage le plus naturel à l'homme, voyant des vers partout dans la prose de Goncourt, hein, et disant que Goncourt lui-même était d'abord un poète. Alors, le testament restait suffisamment vague pour permettre la création d'une série de bourses, bientôt baptisées prix, qui allaient venir compléter le prix de la fondation dévolu au roman. Bourse de la nouvelle, bourse de la biographie, bourse de la poésie. Le prix Goncourt de la poésie, vous en connaissez l'histoire, a été financé, mais avec beaucoup de retard, par un legs, le legs de la veuve d'Adrien Bertrand. Hein. Adrien Bertrand était un prix Goncourt qui avait obtenu le prix en 1916 pour un roman intitulé L'appel du sol. Et Adrien Bertrand avait été blessé à la guerre de 14 et il était mort en 1917. Et sa veuve laissa des décennies plus tard, hein, elle a survécu extrêmement longtemps, une somme d'argent à l'Académie pour qu'on crée un prix, une bourse Goncourt de la poésie qui est devenue ensuite le prix Goncourt de la poésie qui a été décerné à un certain nombre de poètes que vous connaissez tous très bien, Yves Bonnefoy, Jacques Autet, Eugène Guilvic, Clancier, Jean-Michel Maubois récemment. Alors ce prix porte désormais le nom de Robert Sabatier, hein, académicien Goncourt et auteur d'une histoire de la poésie en 9 volumes, et nombre d'académiciens Goncourt furent en effet aussi des poètes, comme Robert Sabatier, qui fut également membre de l'Académie Mallarmé. Alors je voudrais terminer en évoquant un nouvelliste, académicien Goncourt, qui fut lui aussi un poète, Daniel Boulanger. Et nous conclurons en lisant deux de ses retouches, en hommage à sa fille Adama, une amie très chère à un certain nombre d'entre nous, médecin, psychiatre et psychanalyste, récemment disparu, qui avait présenté l'œuvre de son père lors d'une conférence au Cercle Aliénor et qui avait créé la Société des Amis de Daniel Boulanger, dont nous sommes plusieurs ici à faire partie. Lecture de deux retouches.
À l'abandonné au carnaval, c'est ça?
Oui.
Retouche à l'abandonné. Étoiles éperons dans le champ de la nuit, regarde longue reine du désir. Le temps recule et reste sur la rive. Ô givre de l'absence, mon reflet dans les vitres me fait honte. Retouche au carnaval. Les visages que saisira l'abord regardent les fausses fenêtres des linges tendus dans les rues. Le soleil perd ses peaux sous les arbres où s'écroulent des odeurs tristes. Le vent en haillons cherche la trompette du jugement.
Merci beaucoup. Voilà.
Merci pour cette évocation et finalement ce retournement de situation. Les frères Goncourt sont des poètes. Tu nous l'as admirablement démontré, nous semble-t-il. J'ai bien apprécié tout ce qui concernait la poésie. Des questions peut-être? J'en avais une toute petite au départ en ce qui concerne le tabac. Y avait-il chez les Goncourt autre chose que le tabac?
Non, je crois qu'ils sont, contrairement à Baudelaire et contrairement à beaucoup de proches, je ne pense pas qu'ils aient essayé d'autres drogues, contrairement à Flaubert, en Algérie et en Égypte, je ne crois pas. Je pense qu'ils se sont limités au tabac et ils appréciaient par contre beaucoup les alcools hein, et les digestifs. Alors de ce côté-là, bon, il n'y avait pas de mesure.
Est-ce que l'un des deux écrivait plus de poésie ou plus de prose, ou tous les deux en même temps?
Alors là, je dirais que c'est une question effectivement très, très délicate, que cette écriture à quatre mains, hein, qui écrivait quoi? Oui. Bon, alors je pense, les romans sont abondants en dialogue, hein, et le dialogue c'est facile de l'écrire à deux, hein, parce qu'il y a plusieurs protagonistes. Les pages de prose poétique, je pense qu'elles sont partagées, parce qu'elles ne disparaissent pas dans le journal d'Edmond. Il y a autant de prose poétique que dans le journal, et il y en a même beaucoup plus. Hein. J'ai l'impression que la poésie devient de plus en plus importante, peut-être sous l'effet de la présence de poètes nombreux au grenier. Il y a de plus en plus de pages de prose poétique au fur et à mesure que le journal, qui est de plus en plus volumineux, avance dans le temps. Donc je pense qu'Edmond n'est pas du tout étranger à ces pages de prose poétique, mais je peux pas, j'ai pas réussi à lever le voile sur qui faisait quoi. Alors bon, il y a quelques manuscrits, mais les Goncourt, bon, les manuscrits des œuvres à quatre mains ont été entièrement détruits. Donc le manuscrit, c'est une façon de voir par les écritures qui fait quoi. Mais on n'a pas de manuscrits, sauf pour les romans d'Edmond de Goncourt, mais pour les romans à quatre mains, ils ont disparu, pratiquement tous disparu.
De la volonté.
C'était une époque où on ne considérait pas encore, on ne fétichisait pas encore le manuscrit. Le premier à vraiment fétichiser les manuscrits, ça a été Victor Hugo, hein, qui partait à Guernesey avec ses malles, etc. Et il considérait que ses écrits étaient excessivement précieux. Et c'est lui qui a lancé véritablement la mode de conservation des manuscrits, des brouillons, etc., qui ont permis, dans le domaine des études littéraires, la création de la critique génétique. Hein. Et Zola a suivi, et les auteurs réalistes ont suivi ensuite. Hein. Mais bon, on conservait peu. Les manuscrits de Balzac ont été dispersés. Il a fallu la passion de Lovinjoul pour les récupérer, parfois chez les marchands de vieux papiers. Hein. L'aquarelliste, alors c'était plutôt Jules. Hein. L'aquarelliste, c'était plutôt Jules. C'était plus difficile, effectivement. Alors il y a des aquarelles des deux, mais c'est Jules, effectivement. Alors les aquarelles de Jules sont d'ailleurs conservées au Louvre. Hein. Il y a une collection d'aquarelles de Jules de Goncourt conservées au Louvre.
Question à droite.
C'est tout à fait anecdotique, mais c'est à cause de la méchanceté partagée. Quand il a eu des contacts avec Sainte-Beuve, mais Sainte-Beuve
ah oui.
Est beaucoup plus romantique.
Et non, non, ils ont eu beaucoup.
Naturaliste, même pas. C'est pas tout à fait la même génération.
Non, mais ils ont été proches de Sainte-Beuve. Hein. Edmond a eu beaucoup de contacts avec Sainte-Beuve. Il était très, très, très proche de Sainte-Beuve. Et les Goncourt ont en commun, je dirais, une approche de la critique qui est celle de l'œuvre vue à travers l'homme. Hein. Et le journal, finalement, c'est une critique de l'œuvre vue à travers les hommes, qui est la marque de Sainte-Beuve. Sainte-Beuve, il y a une très longue correspondance entre les Goncourt et Sainte-Beuve. Hein, ils ont été très proches, hein. Oui, tout à fait. Je pense que Sainte-Beuve était moins méchant. Mais même si... Même si...
Parce que quand même, avec tout ce que vous avez lu sur le journal, il y a des moments où on s'est dit qu'il faudrait rebaptiser ça le canard déchaîné, quoi.
Oui, alors la question que je pose toujours, si nous-mêmes nous écrivons un journal intime, est-ce que nous sommes constamment lénifiants, enfin un journal personnel, bon, quand vous allez écrire le compte-rendu dans votre journal de cet après-midi chez Libre, j'aimerais bien que j'aimerais bien pouvoir le lire.
On va détruire.
Est-ce qu'il y a des recueils de votre
Alors les premières poésies, il n'y a pas de recueil spécifique, elles ont été conservées parce qu'Edmond conservait tout, et à la fin de sa vie, il a voulu recenser l'ensemble de ses écrits et ceux de son frère, et ça a été publié dans un volume qui s'intitule « Pages retrouvées hein ». Mais il n'y avait pas assez de poésie pour en faire un livre.
Est-ce qu'ils ont été mariés, chacun des deux?
Ben, ça dépend ce que vous appelez marié.
Est-ce qu'ils ont eu chacun une femme, les deux frères?
Non. Non, non. Alors là, vous posez une question qui m'amène à faire une réponse assez délicate. Ils ont une maîtresse qui partageait. Qui s'appelait Maria.
Et qu'appelle-t-on le grenier?
Alors le grenier d'Auteuil. Alors le grenier d'Auteuil, c'est un salon littéraire, bon, que les Goncourt ont voulu réserver à un public d'écrivains et uniquement d'écrivains masculins, qu'Edmond a créé en 1885, qu'il a ouvert en 1885 pour prendre le relais des dimanches de Flaubert rue Murillo. Hein. Flaubert recevait régulièrement, quand il était à Paris, les écrivains chez lui Murillo, et puis Flaubert meurt, et Edmond considère qu'on manque d'un salon littéraire. Et il décide de faire refaire le deuxième étage de sa maison d'Auteuil, boulevard Montmorency. Hein. Actuellement, ça donne... c'est une maison, un hôtel particulier du 19e siècle. Et il fait aménager le grenier par Franz Jourdain, qui sera l'architecte de la Samaritaine. Il va recevoir dans ce grenier, je dirais, tous les écrivains importants de l'époque, les musiciens de passage. Il reçoit Oscar Wilde, il reçoit toute une quantité de personnalités, et le grenier est ouvert à partir du mois de février 1885 jusqu'à la mort d'Edmond en 1896. Donc il fonctionne pendant 11 ans. Oui. Ah oui, absolument. Oui, mais il n'a jamais reçu les Goncourt. C'est dommage.
Oui, ça va être l'heure.
Oui.
Une question à propos d'Edouard Dujardin, parce que c'est
oui,
ma marotte
oui,
sur
oui,
le
oui.
monologue intérieur et sur l'Académie Mallarmé qui fait suite à l'Académie
Goncourt. Oui. Oui. Ben, Édouard Dujardin fait partie. Hein. Bon, Edmond a eu des relations avec Édouard Dujardin. Il y a une correspondance entre Edmond et Édouard Dujardin. Et il pratique ponctuellement, effectivement, le monologue intérieur. Et les lauriers sont coupés, effectivement.
Bien, écoutez, c'est presque l'heure. Donc, on remercie encore.
On a